dont vous pouvez coopérer, n'hésitez pas. Je n'ai pas le temps, moi, hélas. Je voudrais bien, mais je ne peux pas le faire. Là, je vous donne plutôt le fruit d'une réflexion. Mais c'est intéressant. Alors, on m'a rappelé ce texte de Platon dans les lois. C'est intéressant. Tout ce paragraphe, chapitre 6 des lois. Le livre 6, je veux dire, des lois. 772. Dès le mariage. Dans quelque famille donc, à quelque occasion que ce soit, qu'un homme âgé d'au moins 25 ans grâce aux observations qu'il aura faites et ou dont il aura été l'objet, croit avoir trouvé quelqu'un qui lui plaise et qui convienne à une union faite pour lui donner des enfants. Mais, finalité très nette, qu'il se marie toujours avant d'atteindre 35 ans et qu'il écoute d'abord comment il doit chercher la femme convenable et assortie. Car il faut, comme le prétend Ignace, placer en tête de chaque loi un prélude approprié. Alors, Ignace qui répond, tu me rappelles fort bien, étranger, et tu saisis à propos une occasion qui me paraît on ne peut mieux indiquer. Alors, l'Athénien, bonne parole. Enfant, dirons-nous donc, un fils de parents excellents. Donc, la famille idéale. Famille chrétienne. À de parents excellents, il faut conclure l'union approuvée des sages. Et c'est intéressant de voir la tradition, hein. On est en politique. Tradition des sages, donc l'union approuvée des sages, qui te recommanderait de ne pas fuir l'alliance des pauvres et de ne pas trop chercher à te marier chez les riches. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut toujours préférer pour te l'associer le parti légèrement d'inférieur. Ah, très intéressant. La cité y trouvera son avantage. Vous voyez, l'absolu, c'est la cité. L'absolu, on ne dit pas le mariage sera plus parfait, il y aura une harmonie plus parfaite. Non, non. La cité y trouvera son avantage. Et aussi les foyers qui se fondent. Car l'égalité et la proportion valent mille fois mieux pour la vertu qu'un extrême sans mélange. Complémentarité plus qu'égalité. C'est intéressant, ça. C'est de parents tranquilles qu'on doit tendre à devenir le gendre quand on a conscience de se porter à tous les actes plus impérieusement, tous ensemble et plus promptement que de raison. Et celui qui a le tempérament opposé doit s'acheminer vers l'alliance contraire. Très psychologique, vous voyez, le mélange pour arriver à un mix parfait. Donc si tu es passionné selon l'irascible, et prends une épouse qui soit très pacifique. Si tu es très pacifique, prends une épouse qui soit très irascible. Hein? Alors il y aura un mix de merveilleux. Des très bons conseils pour l'entrée en commun. Règle générale, n'ayons qu'un mot sur le mariage. Chacun doit prétendre à celui qui sert la cité, non à celui qui lui plaît le mieux à lui-même. Hein? Un mot. Donc c'est ça, hein? Tout est là. Chacun doit prétendre à celui qui sert la cité, non à celui qui lui plaît le mieux à lui-même. C'est vraiment le point de vue de la Épousez pas quelqu'un d'une grosse fortune. Faites un gros capital énorme. Épousez une pauvre. Si vous êtes pauvre, épousez quelqu'un de grosse fortune. Pour la cité, ce sera parfait. Ça égalera les choses. L'égalité, lui dit. C'est vraiment le point de vue du reste de Platon par rapport à la cité. C'est intéressant parce que c'est les lois. Donc. C'est le dernier ouvrage où il a mis un petit peu d'eau dans son vin. Dans la République, c'est une idéalisation parfaite. Tandis qu'ici, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ainsi se produisent les mots que nous voulons éviter dans notre fondation. Mots qui se produisent en fait général dans la plupart des États. Donc les mots, c'est d'aller à l'extrême. Vous accumulez de fortune. Vous accumulez de caractères irascibles. le plus équilibré possible, à tout point de vue, depuis le point de vue économique jusqu'au point de vue des patients. De vrais citoyens, quoi. Tout cela, et bien plus encore, on pourrait le dire à propos du mariage, avec ce juste prélude qu'il faut se marier. Pour la cité, parce que si vous ne mariez pas, vous devenez un inutile pour la cité. Pensez à l'éternel. Et l'éternel, c'est la procréation. Parce que c'est grâce à la procréation que l'espèce continue. Cette vision qui est très forte, enracinée chez Platon, et qu'Aristote reprend du reste, et qui est une vision du reste très, je dirais, très religieuse. C'est par la procréation que l'homme, l'individu, atteint quelque chose d'éternel. Pas l'oublier. C'est une conception extrêmement fondamentale dans les traditions religieuses. C'est pour ça qu'on fait attention au point de vue du mariage qui implique toujours, et la procréation impliquera toujours quelque chose de religieux. Parce qu'on touche quelque chose d'éternel par l'homme. Si quelqu'un ne vit pas librement, mais restant étranger et insociable dans le cité, arrive sans avoir pris femme, à l'âge de 35 ans, il sera chaque année frappé d'une amende. Et alors, hein, songez à ce que c'est que une communauté religieuse. Qu'est-ce qu'il y aura comme amende? Pire que de point de vue de tout ce qu'on regarde. Des assurances sociales. 100 drachmes pour la plus haute classe, 70 pour la seconde, 60 pour la troisième, 30 pour la quatrième. Les classes, vous savez bien. Tout dépend si vous êtes, votre corps est un corps d'or ou d'argent ou de bronze ou d'argile. Alors, vous savez les classes comme ça. Vous devrez porter ça. Vous avez un corps de bronze. Quatrième place. Sérieux, corps d'argile. Adam. Cet argent sera consacré à Héran. Si l'on nommait le versement de l'année, on devra le décupler, qui sera recouvré par l'intendant de la déesse. Alors, Héra était la déesse du mariage, honorée comme l'épouse légitime de Zeus. D'après une loi citée par Démocrite, le plus propre, le plus proche parent d'une fille épiglée qui refuse d'épouser ou de marier celle-ci est passible de 1000 drachmes consacrés à Héra. C'est la formule normale. Donc l'obligation, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'obligation du mariage, autrement l'amant. Alors on vous laisse un petit temps de liberté, de choisir, 25, 35, 10 ans, 10 ans de liberté. Après, vous tombez sous la loi. Donc, ça donne un aperçu assez particulier sur la question du mariage, la vision de la procréation en vue de l'État. Il y a un texte ensuite, il serait peut-être bon de lire, toujours en vue de chercher un tout petit peu ce que, au plan philosophique, nous devons dire maintenant, nous faisons la philosophie du XXe siècle et de la fin du XXe siècle. Il ne faut pas l'oublier. Nous ne faisons pas la philosophie du temps de Platon, la philosophie du temps d'Aristote, la philosophie du temps de saint Thomas.
Dans le contrat gentilesse, au livre 3e, chapitre 123.
Prenez bien la référence. Hein.
Contrat gentilesse, livre 3e, chapitre 123.
Allez-y, c'est très bien. Est-ce que vous écrirez en grand? Allez. Contrat gentilesse. C.
C'est G.
G. Oui. Livre 3, mais devant. Oui, 3.
Chapitre 123.
123.
Saint Thomas dit: la femme a besoin d'un mari.
Écoutez bien.
La femme a besoin d'un mari non seulement pour engendrer, comme les autres animaux.
C'est de l'Aristote pur, ça.
Et encore, pour gouverner sa famille.
Ah, écoutez bien. Et pour gouverner sa famille.
Le mari est plus parfait par la raison et plus éprouvé dans sa force.
C'est rationné.
Alors, c'est rationné perfection.
Et
virtuté fortiori.
Et plus éprouvé par la vertu.
Par la force.
Oui, la force sur tous.
C'est ça, c'est... Il y a d'autres textes semblables dans la
somme. Oui, oui. Et ça, c'est très aristotélicien. Aristote dit presque la même chose. Il dit ça dans le contrat jeune, dans l'éthique, à propos de l'obéissance. Vous savez bien. Parce que c'est là où on le voit. Il dit que l'enfant doit obéir et la femme. Parce que elles ont une fragilité du côté de la raison. Et donc, au point de vue prudentiel, il est bon pour la femme d'obéir. Ça, c'est de l'Aristote. Bon, alors, comprenons bien que le point de vue de l'éthique et le point de vue politique sont beaucoup plus dépendants au plan philosophique du milieu culturel dans lequel on fait cette philosophie. Ça c'est sûr. Aristote, c'est ça qui m'intéresse. Aristote, déjà, dépasse énormément Platon par rapport au rapport de l'homme et de la femme. Parce qu'il considère qu'entre l'homme et la femme, dans le mariage, il y a une véritable amitié. Et vous l'entendrez dans le livre. Puisque c'est le fameux testament d'Aristote. Vous savez, on a très peu de documents. Hein. Mais vous avez remarqué, dans la lecture du réfectoire, à partir du testament, on infère des tas de choses. Parce que le testament est très très important. Et on a considéré ce testament d'Aristote étonnant, différent avec Platon. Platon n'aurait jamais fait un testament comme ça. C'est Aristote. Ce qui reconnaît qu'entre l'homme et la femme, il y a une véritable amitié. Et ça, c'est énorme. Parce que ça constitue le mariage. Platon n'a jamais dit ça. Mais Aristote reconnaît que dans cette... Alors, c'est là, il faut bien comprendre. Dans cette petite industrie familiale, je dis bien ça, puisque l'économie est familiale en premier lieu. La première relation qui constitue le mariage, c'est le maître et l'esclave. N'oubliez jamais ça. On ne peut pas dire ça. Pour Aristote, c'est net. C'est le maître et l'esclave. Et la seconde relation, c'est l'époux et l'épouse. Et Aristote reconnaît que l'épouse ne doit pas être esclave. Pour Platon, et dans l'Ancien Testament, avec Abraham, on sait bien, il y a des petits compromis entre l'épouse et l'esclave. Songez à Ismaël, songez à Isaac. Il faut bien comprendre ça. Ça fait partie de toute l'époque, de tout ce qu'on représente, une éthique familiale inscrite dans une civilisation. Vous appliquez matériellement ce qui est dit entre Abraham et Sarah et Agar aujourd'hui. Hein, vous voyez ce que ça ferait? Il s'est donné dans la révélation pour nous éclairer, pour que nous comprenions. C'est quand même très important ça. Alors faites le parallèle avec ce que dit Aristote. Aristote donc considère qu'entre l'époux et l'épouse ne doit pas être l'esclave. Donc l'obéissance de l'épouse à l'époux est toute différente de l'obéissance du maître et de l'esclave. Ça troisième type d'obéissance. Donc il y a trois types d'obéissance qu'on retrouve analogiquement avec les trois types du gouvernement. Donc c'est intéressant de voir cette systématisation, si j'ose dire, ce qu'on représente. personnel regarde avant tout le bonheur personnel. Et ceci est beaucoup plus indépendant de tout le contexte, parce qu'on touche beaucoup plus la personne. Quand il s'agit de la famille, toute famille est dépendante de son contexte. L'éthique familiale devra respecter l'éthique personnelle. Et l'éthique chrétienne doit, elle, essayer de comprendre la vision propre de l'Église. Et donc, à partir du sacrement. Et à partir du sacrement, on doit donc essayer de comprendre ce que représente exactement la relation. La relation Église, tête et les membres. Mystère du corps mystique. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans le mystère du corps mystique ? L'amour d'amitié. La grâce fait de nous en premier lieu des membres du Christ dans la charité, sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est pas l'autorité qui est première. Jésus est Père. Il est Sauveur. Il est source de grâce. C'est bien évident qu'ensuite, on verra le fait que Jésus enseigne, prophète et enseigne, et qu'il est roi. Et l'autorité du Christ, comment l'a-t-il exercée ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Comment l'a-t-il exercée ? L'a exercé en respectant ce que représente l'autorité naturelle, temporelle et l'autorité divine. Et je crois que pour nous, on a à purifier énormément. Moi, du moins, c'est comme ça que je faisais quand je prêchais pour les mariages avec cette épître. Je reprenais la comparaison en montrant que l'autorité du Christ une autorité d'époux, de père, d'ami. Et donc, ce qui domine, c'est l'amour. Et ce qui implique un exercice d'autorité pauvre. Jésus n'exerce jamais l'autorité pour sa gloire. Il exerce toujours l'autorité pour le bien de ceux qui sont, dont il est responsable. Et donc, c'est une autorité qui est tout à fait différente de celle que nous avons, nous, en tête, ou en bloc autorité et pouvoir. Jésus n'a jamais, durant sa vie, exercé le pouvoir. Jamais. Il a témoigné de la vérité. Il a exercé l'autorité en vue de la vérité. Et en vue de l'amour. Donc, c'est la première chose que nous devons faire, ça. Et puis, ensuite, nous devons essayer d'avoir un regard philosophique, c'est ce que nous essayons de faire, en essayant de comprendre ce qu'est la nature humaine, d'une façon concrète, puisqu'on est dans une éthique. L'éthique regarde l'homme qui existe. Je ne peux pas séparer en éthique ce qu'est l'homme et sa finalité. Et la finalité engage l'exercice. Et l'exercice engage le comment de l'homme, donc son conditionnement. C'est le propre de la cause finale, ça, au niveau pratique. Donc, je dois essayer, dans notre monde d'aujourd'hui, de comprendre mieux ce que représente la nature humaine. C'est tout l'effort que nous faisons. En respectant, et c'est intéressant de faire cette topique, en respectant ce que les anciens ont dit, ce que Platon et Aristote ont dit de part de vérité, en essayant de comprendre la position de saint Thomas, en essayant de comprendre la position de l'Église, c'est bien évident. Mais au plan philosophique, comprenez bien, la position de l'Église ne commande pas ma philosophie. C'est sûr. Autrement, je serais théologien. La position de l'Église doit m'alerter pour que je sois prudent dans mes conclusions. J'essaie de comprendre. Alors, qu'est-ce que je vois aujourd'hui dans la perspective de l'Église depuis y a une finalité du mariage, seconde, qu'on ne peut absolument pas séparer de la première. Le point de vue des enfants, la procréation. Et que la procréation est en dépendance directe de l'amour et de l'amour d'amitié des conjoints. Et l'Église précise qu'on ne peut pas aller contre cette finalité. Elle est naturelle, elle s'enracine dans la nature. Elle est voulue par la sagesse de Dieu. Multipliez-vous. Et l'Église souligne en troisième finalité la responsabilité des parents à l'égard de l'éducation. Et l'éducation chrétienne, les parents s'engagent par le sacrement de mariage, à élever leurs enfants dans l'éducation chrétienne. Alors on leur laisse évidemment le moyen de faire. C'est sûr. On ne va pas dicter ça. Comme l'Église ne dicte pas un planning familial. Mais l'Église montre que la seconde finalité du mariage, c'est la procréation. Moi, je crois qu'il y a une vision beaucoup plus nette et profonde, je dis qu'elle est plus profonde, de la vision de l'Église aujourd'hui par rapport au mariage. Ça me semble assez net. Bon, le philosophe ne va pas se mettre à l'école de l'Église. Ce serait plus philosophique. Mais s'il en tient compte, s'il est chrétien, l'Église a une sagesse. Surtout par rapport à ce point de vue pratique, et surtout par rapport au mariage. Alors, il essaie de comprendre, à partir de l'expérience, ce que peut être le mariage au plan purement philosophique, c'est-à-dire au plan purement humain, en sachant très bien, en tant que philosophe, sont plus proches, sont plus forts que les liens de la capacité. le fait quand de fait elle juge qu'il y a des soumis, normalement ce devrait être les hommes qui sont gardiens de la justice. Et l'Église est gardienne de l'amour. Alors on comprend combien l'Église est attentive à toutes les entorses par rapport à l'amour d'amitié, par rapport à l'amour de l'époux et de l'épouse, par rapport à l'éducation. Elle est très attentive à ça. Elle est, vous voyez, dans cet ordre-là, l'Église a la conviction qu'elle a une responsabilité beaucoup plus grande. Et ça, je crois que ça fait partie du mystère de l'Église. Et c'est très beau de recevoir ça. Parce que je crois que c'est vraiment dans le sens de l'Écriture. Et ça ferait comprendre pourquoi Jésus, selon l'évangile de Saint Jean, présence de Jésus aux noces de Cana. Il n'est pas présent au tribunal. Il est présent au tribunal quand il est condamné. Il n'est pas présent au tribunal pour voir si les lois sont bien appliquées. Il n'est pas présent au Sanhédrin pour voir les discussions des théologiens. Non. Il est présent dans ce cas-là. Même très, très étonnant, ça. Et je crois que ça fait tout de suite comprendre cette présence de l'Église pour la question du mariage chrétien. Bon, alors, ceci, c'est pour nous faire comprendre que si nous essayons de comprendre aujourd'hui quel est le lien exact de l'époux et de l'épouse, on affirme amour d'amitié. Amour d'amitié dans la complémentarité. Étant donné la diversité que Dieu a voulu entre l'homme et la femme. Diversité particulièrement nette, et je souligne, du côté de la procréation, c'est évident. Tandis que dans l'ordre de l'amitié, y a-t-il une telle diversité? Psychologiquement, aujourd'hui, on montre qu'il peut y avoir des hommes qui ont des psychologies assez féminines et des femmes qui ont des psychologies assez viriles. Bien évident, on ne peut pas nier ça. Que l'homme soit enclin à une intelligence plus rationnelle, plus logique, oui, je crois. Que la femme ait un sens plus aigu de l'amour et de la finalité, je crois. Mais cette diversité est de l'ordre des dispositions. Ce n'est pas du côté des principes. Donc c'est de l'ordre de disposition, de l'ordre de l'éducation, de l'ordre des tempéraments et tout ça. Donc on doit tenir compte. Mais on ne peut pas fonder là-dessus un principe. De sorte que je crois qu'il s'agit de bien discerner les trois finalités au plan philosophique du mariage. Et à partir de là, comprendre où apparaît l'autorité. C'était la question posée. À quel niveau l'autorité apparaît? Si vous prenez ces trois niveaux qui sont dans l'Église et que je peux philosophiquement montrer, si je réfléchis sur ce que c'est que cette communauté fondamentale qu'est la famille, et je dis que cette communauté fondamentale qu'est la famille est fondée, du moins est déterminée, plus que fondée, est spécifiée par l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Elle implique la capacité de la procréation en lien de nécessité, dans un lien essentiel, et elle implique l'éducation. Y a-t-il une nouvelle finalité au plan philosophique? Non. Je dois donc, au plan philosophique, étudier le caractère propre de ces trois finalités pour comprendre philosophie.